bien, en attendant, j'espère que on va se sauver de ce qui nous attend, en tout cas de ce qui se prépare à l'OMS, parce que vous l'avez vu, Tedros et toute sa bande ne se sont pas arrêtés en si bon chemin
Ah oui.
depuis le RSI qui a été adopté. Non, ça on va le voir. Hein. En juin, le 1er juin, eh bien, il y a toujours l'accord sur les pandémies, qu'on appelle traité pandémie, qui est encore en train de se négocier. Alors, la chronique d'aujourd'hui, c'est OMS 2024. Alors, j'avais déjà fait OMS 2024 en avril 2024, et là, on est à fin 2024. Où en sont-ils avec ce règlement sanitaire international, le RSI, et le traité pandémie, qui s'appelle donc accord sur les pandémies de l'OMS, au jour d'aujourd'hui, le 28 novembre 2024, eh bien, on va voir tout ça. Je vous ai fait quelques petits rappels, j'espère pas être trop longue là-dessus. Donc, l'OMS, on le rappelle, est une agence spécialisée de l'ONU qui a été créée en 1948, le 7 avril, et que son siège est dans ma ville, à Genève, et que la Suisse, comme vous le voyez, est tout à fait centrale et tout à fait stratégique au milieu de l'Europe, et que c'est ici que se passent beaucoup de choses. Que l'objectif qui est double de l'OMS depuis, en tout cas, le Covid et voire avant le Covid, c'était de réformer le RSI, Règlement sanitaire international, et d'établir le fameux traité pandémie en vertu des articles 22, 19 et 20 de la Constitution de l'OMS. Alors, une fois qu'on a dit ça, on revient aussi rapidement sur l'historique de la mise en place du Règlement sanitaire international qui a eu sa première version. On parle toujours de la version 2005, mais la première version a été émise en 1951 après l'épidémie de choléra en Europe qui a permis de créer ce règlement sanitaire international qui devient juridiquement contraignant pour tous les membres de l'OMS et évidemment de l'ONU, parce que les deux sont liés. Ensuite, en 1969, on a eu la grippe de Hong Kong, dite la grippe de Hong Kong, et ça a permis d'élargir le champ du RSI, donc de cette fois appliquer le règlement sanitaire international à six maladies, le choléra, la fièvre jaune, la peste, la variole et la fièvre récurrente, ainsi que le typhus. Et puis, comme ça ne suffisait pas, l'OMS s'est servi du SRAS pour élaborer cette fois le dernier RSI connu avant celui qu'on a adopté cette année, celui de 2005, qui a permis cette fois d'appliquer le règlement sanitaire international à toutes les maladies qui existent, qu'elles soient infectieuses, qu'elles soient transmissibles ou non, y compris les zoonoses, donc celles qui sont transmises, soi-disant, par les animaux. Alors, on va voir ce qui devient ce RSI, mais juste avant, on fait aussi l'historique du traité sur les pandémies qui a été publié, communiqué la première fois au grand public par ce monsieur, Charles Michel, qui a été aussi ministre, premier ministre belge. Tous ces gens ont beaucoup de casquettes, hein, on l'a vu plusieurs fois, et qu'on voit ici dans la petite image à gauche, en présence de Klaus Schwab, ça date de 2017, et du roi Philippe de Belgique, et qui nous disait donc en novembre 2020, il y a maintenant 4 ans, que nous devions aller plus loin et tirer les leçons de la pandémie. De la même façon que, rappelez-vous, pour le RSI, on a tiré les leçons du choléra, les leçons du SRAS et les leçons de la grippe de Hong Kong qui a permis à chaque fois d'agrandir ce pouvoir que s'est octroyé cette Organisation mondiale de la santé qui, je le rappelle, est financée à 74% par des fonds privés, hein, donc comme on l'a vu. Donc voilà, il faut agir, il faut se coordonner, c'est très important de se coordonner, tous les pays doivent faire la même chose en même temps pour toujours nous protéger au mieux alors qu'on n'a rien demandé à personne. Mais bon, ces gens-là savent mieux que nous, comme vous le savez, ce qui est bon pour nous. Alors, cette communication de Charles Michel a été suivie par une session extraordinaire de l'OMS en novembre-décembre 2021. On en avait parlé, j'avais déjà fait une chronique à cette époque-là pour donner un petit peu l'état des lieux, pour éventuellement, nous disait-on, signer déjà le traité pandémie. Alors, heureusement, ça n'a pas été le cas. Il y a eu des entraves, il y a eu des bugs, comme on dit, ce qui a fait que ce traité a attendu plusieurs années. Alors là, on voit un Tedros assez ennuyé dans l'Assemblée mondiale, la 75e de l'OMS de 2022, qui évoquait parmi d'autres sujets donc ce fameux traité et ces fameuses modifications du RSI sans toutefois y parvenir. Il y a eu la première session de l'organe de négociation intergouvernementale sur le traité pandémie en juillet 2022, et puis on arrive à avril 2023, où le même Tedros Adhanom Ghebreyesus, donc directeur général pour la deuxième fois de l'OMS, hein, je rappelle qu'il est directeur de l'OMS depuis 2017, nous disait « Il ne faut pas que l'on commette les mêmes erreurs à l'avenir parce que je crois je ne crois pas que l'on pourrait se pardonner. Si, si, on pardonnerait très bien, Pedro, ne t'inquiète pas. Si on n'arrivait pas à trouver, à se mettre d'accord sur un traité. Il ajoutait à ce moment-là qu'ils étaient pressés par le temps. Donc là, on parle d'avril 2023, il y a un an et demi. Et que l'année qui leur restait à l'époque, parce qu'ils étaient censés aboutir en mai 2024, à la fameuse signature du traité, que les un an, que l'année qui leur restait, c'était peu, et qu'il fallait se mettre à la tâche, quoi. Donc, toujours en 2023, un peu plus tard, on a cette réunion, la quatrième, de l'INB, donc l'organe intergouvernemental de négociation pour le traité pandémie, qui a abouti à des différents drafts, hein, j'en avais parlé encore en 2023, donc les différentes versions de cet accord. On arrive en janvier 2024, donc au début de cette année, où Tedros nous disait inquiet qu'il ne pouvait pas se permettre, encore une fois, on ne peut pas se permettre que le traité soit saboté par des mensonges, voyons, délibérément ou inconsciemment. Tous les gens qui disent que l'OMS va nous voler notre souveraineté se trompent, parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout le cas. Et il ajoutait donc qu'il avait besoin du soutien des différents pays membres pour bien dire à la population que ne vous inquiétez pas, braves gens, la souveraineté ne va pas vous être volée par l'OMS. Vous voyez, donc c'est ce qu'il disait, on va voir si c'est vraiment le cas. En tout cas, c'était le message à passer. Donc, on arrive en mai 2024. Alors, la dernière séquence, la dernière chronique que j'ai faite sur ce sujet, c'était en avril 2024. Donc là, tout ce qui arrive maintenant est nouveau. Donc, le 27 mai 2024, c'était le début de la 77e Assemblée mondiale de la santé, au cours de laquelle était prévu d'être adopté à la fois le RSI amendé, le nouveau RSI, et le traité, le fameux traité sur les pandémies. Et donc, à ce moment-là, notre Tedros International nous disait qu'il rappelait un petit peu l'historique qu'il fallait, depuis 2 ans et demi, qu'on était en train d'élaborer un accord juridiquement contraignant, il le dit quand même, hein. Donc, les pays ne perdent pas leur souveraineté, mais l'accord est contraignant, donc cherchez l'erreur. Et qui permettait de renforcer la prévention, préparation, riposte, les trois mots qui vont bien, la trilogie, face aux pandémies, et de renforcer le RSI également. Alors, pour l'instant, il ne l'a toujours pas fait, ce traité, et le 1er juin, donc, par contre, l'ensemble des pays membres de l'OMS a adopté par consensus, ils adorent le consensus dans ces salons feutrés, le règlement sanitaire international, à l'exception de la Russie, de l'Iran, et il y avait le Costa Rica, la Slovaquie, qui émettaient des réserves face au règlement sanitaire international tel qu'il a été présenté, mais le reste de l'Assemblée n'en a eu que faire et il a été adopté quand même. C'est important, le consensus. En un seul mot, je précise. Donc, il a été adopté le 1er juin et on rappelle juste les quelques orientations qu'il a prises, donc ce RSI. Donc, la dernière version, elle fait 66 articles, 67 pages. Alors, en gros, il y a une nouvelle définition. Après la pandémie, vous rappelez de la pandémie, la définition de la pandémie de l'OMS, qui n'a pas besoin d'avoir des morts et des gens qui ont des dégâts sur leur santé, non. Eh bien, on arrive à cette urgence pandémique ou urgence due aux pandémies, qui est cette fois une fake. Hein, je rappelle que la fake, c'est Public Health Emergency of International Concern. Donc, c'est une urgence de santé publique de portée internationale qui doit être infectieuse quand même. Mais qui se propage ou est susceptible de se propager dans les États de l'OMS, qui dépasse ou est susceptible de dépasser la capacité de santé des États, ou est susceptible de causer des perturbations sociales ou économiques ou politiques, et qui nécessite une action internationale coordonnée, rapide, équitable et renforcée. Donc avec tous ces si, j'ai envie de dire, on peut mettre la pandémie en bouteille, hein, parce qu'il est susceptible, et donc, voilà, il suffit que Tedros décide que c'est susceptible, et puis on y va, quoi. Donc, les changements importants, avec quelques illustrations pour mieux se rendre compte, les mots sont bien, mais les photos sont aussi importantes, je trouve, dans le message. Donc, l'article 1 et l'article 4, ça, c'est Urmiret qui nous a détaillé ses conclusions, et j'ai vérifié chacun des articles, je les ai encore vérifiés cet après-midi. Disent, donc l'article 1 et l'article 4 du nouveau RSI disent que chaque État partie doit désigner une autorité nationale, un point focal national RSI, donc une antenne de référence du RSI qui permette à l'OMS de connecter directement les informations de telle sorte que le point focal, l'autorité nationale, aussitôt réagit et diffuse les mesures, impose les mesures de sanitaires à la population pour que ça soit rapide et efficace, vous voyez. que ça soit tout d'un seul trait, que tous les pays réagissent en même temps. L'article 12 nous dit que c'est le directeur de l'OMS qui déterminera ce qui constitue une urgence pandémique, donc la nouvelle définition que je vous ai lue juste avant. Donc il suffit que Tedros décide que tout ça est susceptible d'arriver pour qu'on soit en urgence pandémique. Et également, le RSI permet, alors ça, ça date déjà de la version d'avril, même de mars 2024, je vous rappelle, donc pour vous donner un petit peu l'esprit de ce RSI, il permet donc de donner des recommandations, pour l'instant des recommandations, pour examiner les antécédents de voyage dans les zones infectées, examiner la preuve qu'un examen médical a été fait sur les différentes personnes visées, exiger des examens médicaux, donc les tests, toutes ces joyeusetés que les gens ont connues pendant le Covid. Je dis bien les gens parce que nous, on les a pas, enfin moi, je les ai pas pratiqués personnellement. Et merci. Examiner la preuve des vaccinations et des mesures prophylactiques, exiger une vaccination carrément, donc ça fait partie des recommandations de l'OMS, ou une mesure prophylactique médicamenteuse, placer des personnes suspectes en observation, toujours à des fins de santé publique, c'est bien qu'il précise, placer en quarantaine les personnes suspectes, alors suspectes, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, Tedros, lui, doit savoir, isoler ou traiter si nécessaire les personnes affectées, et on va voir que ça s'empire par la suite, rechercher les contacts, les fameux contacts, le contact tracing, avec une soi-disant application qui n'est pas contraignante et qui n'est pas obligatoire, rappelez-vous. Donc, rechercher les contacts des personnes suspectes de nouveau ou affectées. Et puis c'est de mieux en mieux, refuser l'entrée dans les pays des personnes suspectes et affectées, mais refuser aussi l'entrée des personnes non affectées dans des zones affectées. Soumettre à des dépistages, des restrictions de sortie, durant les voyages, effectuer le traitement des bagages, hein, les désinfecter, les tester. Les éliminer, pourquoi pas. On parle de saisie et de destruction, hein, des bagages, des cargaisons, des conteneurs, des colis postaux, etc. Et refuser le départ ou l'entrée des bagages ou des marchandises. C'est une liste non exhaustive, je n'avais pas la place de tous les mettre, mais ça vous donne une petite idée. Les changements importants, on continue avec l'annexe 1, l'annexe 4 et l'article 24. C'est que là, je vous ai mis des petites caméras pour se mettre dans l'ambiance. Il s'agit de surveiller, de collecter systématiquement, d'analyser les données de tout le monde à des fins de santé publique. Il le rajoute à toutes les phrases hein, pour être sûr qu'on a bien compris le message. En matière de santé publique, une deuxième fois. La mise en œuvre immédiate, c'est-à-dire qu'on n'attend pas demain. C'est immédiat, les mesures de lutte. Alors, ils disent pas de quoi, mais de lutte contre les pandémies, bien sûr, hein, pas contre les humains ou contre les libertés. Non. Imaginez là. Ensuite, il faut communiquer sur les risques, toujours communiquer sur la peur, toujours faire peur, en fait, donner les risques de ces maladies, y compris lutter contre la désinformation. Alors, ils précisent pas ce que c'est que la désinformation, c'est toujours un petit peu aléatoire, un petit peu subjectif tout ça. Et on nous dit aussi que pendant le transport, donc les États parties veilleront à se conformer aux mesures sanitaires recommandées par l'OMS. Donc enfin, en même temps, c'est des recommandations, mais les États doivent se conformer aux recommandations. Mais à part ça, le traité n'est pas contraignant. Non. C'est dans votre tête tout ça. Et on informe les voyageurs des mesures recommandées par l'OMS, mais qui seront auxquelles on doit se conformer, je vous le rappelle. Que ce soit au cours de l'embarquement, ou au début de l'embarquement, ou au débarquement, quand on fait un voyage, que ce soit en avion, en bateau, ou en tapis volant, ou je ne sais quoi. Les changements importants encore, article 27, article 35 et article 45, je vous ai mis les petites illustrations. L'autorité compétente peut mettre en œuvre des mesures sanitaires supplémentaires. Parce que si ça suffit pas, les recommandations de l'OMS, on peut en rajouter. C'est ça l'avantage. Si le pays veut d'autres mesures, on peut y aller. Donc, ça peut être de l'isolement, de la quarantaine, des moyens de transport. Ça peut être… là, on parle aussi… Ils sont gentils parce qu'ils nous disent que le certificat de vaccination peut être en format numérique ou non numérique. Mais cela dépend cependant… c'est marqué sous réserve des obligations de tout État parti concernant le format de ces documents qui découlent d'autres accords internationaux. Donc, s'il y a d'autres accords internationaux du type passe mondial, du type identité numérique obligatoire dans l'Union européenne ou que sais-je, eh bien, du coup, le certificat de vaccination, il sera forcément en format numérique, vous l'imaginez bien. Ensuite, article 45, il n'y a pas de problème pour les États de divulguer vos données personnelles parce que c'est important pour votre santé que toutes vos données soient données à tout le monde, à tous les pays dans lesquels vous voudriez vous échapper, par exemple. Je le dis en rigolant, mais c'est vrai que le tableau n'est pas génial. Hein. En bref, donc tout ça, ça a été adopté le 1er juin, je rappelle. Hein. Petite question.
Oui, si tu permets. Parce que quand tu dis que nos données médicales soient données, en réalité, on a vu ça au Québec, les données sont vendues.
Oui, pardon, peut-être qu'elles sont vendues. Enfin, toujours est-il, moi je parle du fait de transmettre.
Ça, elles sont vendues par les gouvernements à des institutions privées qui vont, agir au plus offrant, j'imagine. Mais donc, en fait…
Oui, bien sûr. Pour moi, c'était annexe. Pour moi, c'était secondaire qu'elles soient vendues aux données. Pour moi, c'était surtout le fait qu'elles soient transmises à Google, à tous les pays, à Microsoft,
voilà,
qui gèrent les données françaises. Merci, Jean.
Je voulais juste préciser ça parce que si elles sont vendues, ça veut dire que ceux qui achètent ont un intérêt et vont avoir un intérêt à rentabiliser leur investissement.
Leurs investissements, évidemment, bien sûr.
Continue.
Ce n'est pas des mécènes, hein, sauf peut-être Bill Gates avec sa philanthropie, sait-on jamais. Non, bon, bref. L'OMS, donc si je résume, l'OMS aura désormais son antenne dans chaque pays, dans chaque État membre, et mettra en place les directives du directeur général de l'OMS. Deuxièmement, tous les États auront le droit souverain d'appliquer à la lettre les directives de l'OMS. Hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus, mais c'est une décision souveraine des États. Les déplacements seront impactés, il y aura un pass sanitaire, en tout cas c'est ce qui est prévu de façon quasi permanente, que la désinformation, ce qu'ils appellent désinformation, est ciblée, la surveillance sera renforcée, ou en tout cas ils veulent renforcer la surveillance, et que les données personnelles seront divulguées légalement, au plus offrant, comme tu le disais avant. Ça c'est pour le RSI. Maintenant on parle du traité pandémie. Là je vous ai mis les références pour retrouver la dernière version. La dernière version date du 19 septembre de cette année. Alors, ça, c'est une information que j'ai juste glanée juste pendant l'émission parce que je voulais voir ce que disait l'OMS sur la raison de l'implémentation du traité pandémie. Et dans les questions-réponses, je vous mettrai le lien, bien sûr, comme toutes les autres sources que je mets d'habitude, on a une question qui demande à quoi ça servirait ce traité. Alors, la réponse qui est donnée par l'OMS, c'est à combler les lacunes qui ont été mises en évidence par la pandémie de COVID-19. On voit toujours qu'on se sert d'un événement choc, hein, c'est Naomi Klein qui nous l'a montré dans son livre, toujours d'un événement qui choque l'opinion publique, qui choque le peuple, la population, pour amener de différentes choses, pour reconstruire ou pour donner différentes choses. Et là, en l'occurrence, on comblerait avec ce traité les lacunes concernant la One Health. Vous savez, c'est la préoccupation de santé qui concernerait la plante, l'animal et l'être humain, et qui relierait les trois. Par exemple, un canard qui a une grippe aviaire, justifierait peut-être la fermeture des frontières pour pas que ça se propage à l'humain. Donc ça, c'est ce qui manquait dans les contraintes officielles de l'OMS. Donc là, maintenant, avec le traité pandémie, vous allez le voir en détail tout à l'heure, on introduit vraiment ce concept de One Health, une seule santé. La deuxième chose, c'est un financement pérenne et prévisible de la préparation et de la riposte aux urgences sanitaires. Autrement dit, un financement pérenne et prévisible de l'OMS, tout simplement. J'écoutais encore une allocution de Tedros ce matin, qui disait, ça datait du 1er juin, je crois, qui disait qu'il n'y avait que 17% de l'OMS qui était financé de façon stable, de façon prévisible, 17%. Donc, on rappelle qu'il y a 26% qui est financé par le public, enfin, il y a 26% de financement public, donc par les pays, mais dans ces 26%, enfin, dans le total, on n'a que 17% qui est stable, en fait, qui est prévisible. Donc, effectivement, l'OMS a besoin d'argent, enfin, a envie d'argent, en tout cas. Troisième point qui justifie le traité pandémie, c'est les mécanismes de gouvernance et de surveillance pour accroître la confiance. Alors, ils pensent qu'en nous gouvernant et en nous surveillant, ça va accroître la confiance. Je pense qu'ils se mettent le doigt dans l'œil. Mais bon, ça n'est que mon avis. On a vu donc, avant la 77e Assemblée mondiale de la santé de cette année, la RTS nous annonçait le 24 mai, donc l'Assemblée elle a commencé le 27 mai, et le 24 mai, déjà trois jours avant, la RTS nous annonçait que la négociation sur le traité pandémie avait échoué, que cette année, en tout cas pour cette Assemblée nationale, non, rien à voir, Assemblée mondiale de la santé, il n'y aurait pas de traité pandémie. Mais l'OMS, vous savez, a plus d'un tour dans son sac et n'a pas dit son dernier mot. C'est pour ça qu'ils ont eu une session extraordinaire, là, il y a quelques jours, semaines, du 4 novembre au 15 novembre, la 12e réunion de cet organe de négociation intergouvernementale, qui s'est déroulée plutôt discrètement. Je trouve que les médias n'en ont pas vraiment beaucoup parlé. Pour finaliser l'accord sur les pandémies, heureusement, rien n'est signé. Mais je vous donne quelques pépites que j'ai glanées donc en écoutant les vidéos de ces sessions. Cette session a eu lieu le 4 novembre et le célèbre Tedros, accompagné de son fidèle compagnon Mike Ryan, vous savez qu'il parlait de séparer les enfants là au début du Covid à cause de la pandémie. Eh bien, donc Tedros nous dit que le temps n'est pas de notre côté. Donc là, il y a vraiment un truc avec le temps. Hein. Il a vraiment l'angoisse de pas pouvoir y arriver. Il nous dit que le Covid circule encore, que la monkeypox continue d'être une urgence publique, qu'il y a une flambée de virus de Marburg et que la H5N1 continue également de répandre. J'ai envie de lui répondre à notre cher Tedros que avec toutes ces maladies, on est encore vivant. Comment se fait-ce sans vaccin, je rappelle, sans aucune injection. Il ajoute donc que la prochaine pandémie n'attendra pas. Non, évidemment. En fait, c'est plutôt elle attend en attendant que le traité pandémie soit signé. Donc, il nous dit, il nous dit pas à nous, hein, au pays, je vous exhorte à finaliser l'accord cette année, si c'est possible, et je suis convaincue que c'est possible. Donc là, il a vraiment envie de signer. Et puis, cette dame que j'ai découvert en écoutant cette vidéo, la déléguée de Gavi, je vous rappelle que Gavi, c'est l'alliance vaccinale de Bill Gates, Mondial Global Global Alliance for Vaccines and Immunization, je crois qu'on dit, qui nous dit « Nous nous félicitons de l'inclusion de la vaccination systématique. » Ah bah tiens donc, une vaccination systématique dans ce traité. Ok, systématique, ça ne voudrait pas dire obligatoire dans le projet de texte. Elle ajoute « En conclusion, nous exhortons les États membres à arriver à un consensus, le fameux consensus, autour de cet accord contraignant. Encore une fois, on nous parle d'un accord contraignant dont le monde a tant besoin pour répondre aux pandémies futures, blablabla. » Et ce que nous ajoute cette dame, Anne-Claire Amproux, qui est l'une des coprésidentes du groupe de réflexion, enfin de l'organe de négociation, qui est française, qui nous dit donc, je propose de suspendre, elle nous dit ça le 15 novembre à la clôture de la session, de la 12e session de l'INB, Je propose de suspendre la 12e session de l'INB jusqu'au 2 décembre. Reposez-vous, nous dit-elle, revenez après beaucoup de réunions informelles. En gros, voyez-vous en dehors du bureau pour vous mettre d'accord sur l'accord que vous allez donner pour ce traité pandémie. Donc, avec un esprit de compromis et une flexibilité pour finir le travail le plus tôt possible. Alors, entre-temps, on fait une petite page pub pour Tedros qui a eu un problème, un malaise à Rio, au G20 de Rio, dans la semaine du 18 novembre, au moment où j'étais à l'ONU, ça lui a peut-être donné un petit malaise, avec de l'hypertension et une labyrinthite, donc c'est une histoire d'oreille interne. Le 22 novembre, il annonce sur Twitter que, heureusement, il va bien, ne vous inquiétez pas, il dit « I'm so happy, I made it home », donc je suis ravie, je suis si heureux, j'ai réussi à rentrer chez moi, juste attends pour voir ma fille Blaine, donc ici présente, avant qu'elle voyage pour aller à sa compétition de football à l'étranger. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Merci pour vos mots si gentils pendant ma convalescence. On est content, il va toujours bien. Par contre, il a perdu beaucoup de cheveux. Hein, ça, je l'ai remarqué dans les vidéos. Je vous invite à regarder. Ça n'a peut-être aucun rapport. Là, on est sur le rapport du 27 novembre par rapport à cette 12e réunion de l'INB qui nous dit que le délai est trop court pour signer en décembre. Ouf. Donc, c'est reporté. En tout cas, ça ne sera pas pour décembre. Et ils s'attendent à faire signer tout ça lors de l'Assemblée mondiale de la santé de l'année prochaine, en mai 2025, la 78e Assemblée mondiale. Donc, ça, c'est le rapport que j'ai lu hier et dont je peux vous donner la teneur aujourd'hui. Donc là, c'est le texte sur lequel s'inspire donc le dernier texte de l'accord sur les pandémies, du traité pandémie. Donc, en 5 points, alors je vais vous donner le thème. Puis l'évolution depuis 2023 jusqu'à maintenant entre les textes qui étaient prévus en 2023 et le dernier texte. Donc premier sujet, l'OMS comme autorité directrice et coordinatrice. Alors je vous rassure, je casse le suspense, ça n'a pas évolué. L'OMS est une autorité coordinatrice et directrice dans les 3 versions, donc petit 1, petit 2 et petit 3. On a toujours la même chose pour l'OMS qui est la référence en fait, qui dirige et coordonne les pandémies. Ça, c'est à la page 6, comme ça, vous pouvez retrouver les textes. Concernant la souveraineté des pays, alors il y a une petite nuance. la première version, le CA+, à l'époque, ça s'appelait CA+, hein, c'était convention, accord ou plus, ils ne savaient pas encore comment l'appeler, nous dit que la souveraineté nationale, elle est donnée à l'OMS. Et puis, dans la version de mars 2024, la souveraineté nationale, elle est rétablie pour les pays, mais cependant, les pays doivent quand même légiférer dans le sens de l'OMS, donc ce qui revient plus ou moins au même. Et puis, dans le dernier accord, donc celui de septembre 2024, on nous dit que la souveraineté nationale est respectée, mais à condition de suivre les principes de l'OMS et de l'ONU, et en plus de légiférer. Comme ça, on a la totale, on a la complète œuf, fromage, jambon, comme dirait Dieudo. Ensuite, concernant One Health et le changement climatique, ça va un petit peu ensemble. Dans la première version de 2023, on avait deux articles qui nous parlaient de mettre en place le concept d'une seule santé, vous savez, plante, animal et humain, concernant les maladies. Et aussi qu'il fallait faire attention parce que les changements climatiques pouvaient favoriser les pandémies. Eh oui, comme ça, la boucle est bouclée. L'accord de la version de mars 2024, le One Health avait été déplacé dans l'article 5, donc de l'article 18 à l'article 5, mais était toujours présent. Et le changement climatique avait été déplacé à l'article 4, mais il s'agissait toujours de le prendre en compte dans les nouvelles pandémies. Et puis, dans la dernière version, le One Health est toujours à l'article 5, mais le paragraphe a doublé de volume. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre, mais simplement qu'on a rajouté trois lignes aux trois lignes initiales. Donc, on nous dit que les parties, donc les parties, c'est les états parties, promeuvent une approche, une seule santé, pour répondre aux pandémies. Quant au changement climatique, il a été déplacé, mais cette fois, il est dans les considérants. Vous savez, avant l'introduction, il y a, je crois, 18 considérants, et le 18e, justement, c'est celui qui reconnaît l'importance et l'impact sur la santé publique des menaces croissantes telles que le changement climatique qui a été dilué avec la pauvreté, la faim, les environnements fragiles et vulnérables, la faiblesse des soins de santé primaires et la propagation de résistance aux antimicrobiens. Donc, c'est un petit peu dilué, mais c'est toujours là. On arrive au concept de critique. Donc, la critique est évidemment pas la bienvenue du tout dans le traité pandémie. On avait dans la version 2023 trois articles qui permettaient de faire la chasse aux informations trompeuses, aux désinformations, aux informations fausses. Donc ça, c'est trois volets. Je vous laisserai regarder en détail. Et puis la version 2024 est un peu plus courte. Cette fois, on nous parle d'apporter des informations crédibles et probantes, des données probantes, pour que les gens sachent où est la vérité et qu'il fallait combattre la mésinformation et la désinformation, et qu'il fallait aussi identifier les facteurs qui faisaient que la population n'avait plus confiance ni dans les institutions, ni dans les vaccins, ni dans ce qu'ils appellent la science, ni dans les services publics en lien avec la santé, qu'il fallait adapter la communication. Et puis, la version de 2024, septembre, nous parle encore plus en douceur, on va dire, avec un langage diplomatique, de l'importance d'instaurer la confiance, de garantir le partage en temps opportun des informations, c'est-à-dire donner des informations, mais pas à n'importe quel moment et pas de n'importe quelle façon. Empêcher, il y a toujours cette notion quand même de prevent, donc prévenir, empêcher la mésinformation, la désinformation et la stigmatisation. Alors, j'en profite pour passer un message à Tedros et à tous ses adeptes que s'ils pouvaient arrêter de stigmatiser les gens qui ne sont pas d'accord avec l'OMS, par exemple, ce serait une grande avancée pour l'humanité, je pense. Donc, appliquer cet article, ce point 13 à la page 7, ce serait volontiers. Et puis, l'article 18 nous parle non plus de données crédibles ou probantes, etc., mais d'informations transparentes, opportunes, précises, scientifiques et factuelles. On s'approche de quelque chose de plus rationnel et de plus raisonnable. Je trouve que l'OMS fait des progrès. Mais par contre, ils invitent toujours les États parties à éclairer leur politique sur les facteurs qui entravent la confiance, hein, toujours dans les mêmes choses, les autorités de santé, les institutions publiques et la science. Je crois qu'ils ne mettent plus la notion de vaccination. Tiens, c'est intéressant. Dernière petite notion au point 3. L'OMS devra, sur demande, continuer à fournir un soutien technique aux États parties concernant les deux points précédents, donc concernant les données à communiquer au public et concernant l'identification des facteurs qui entravent la confiance de la population. C'est l'OMS qui va donner le soutien technique. C'est intéressant, j'attends de voir ce que l'OMS va donner comme soutien aux États pour contrôler l'information. Donc voilà, il faut toujours comprendre les facteurs qui entravent l'obéissance. C'est mon résumé à moi, avec mes mots à moi. Un quatrième point, je crois, la compatibilité avec l'agenda 2030. Rappelez-vous, les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Donc, dans la première version, on nous parlait de l'objectif 3, bienêtre, bonne santé, ouais, c'est ça, pour l'horizon 2030. Donc, il fallait que le traité pandémie s'adapte à cet objectif. Ce qui n'est plus présent dans la version de mars 2024, mais qui réapparaît par la fenêtre en septembre 2024, mais cette fois plus avec le troisième but, mais avec le cinquième but, l'égalité entre les sexes. Donc, on nous dit à la page 6 dans les considérants qu'il faut rappeler que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes prévoit que les États parties à cette convention prendront des mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes. On n'a pas peur de se répéter dans ce texte, dans le domaine des soins de santé. Donc, il ne faut pas discriminer les femmes dans le domaine des soins de santé, et que l'objectif numéro 5 vise à parvenir à l'égalité des sexes et à autonomiser toutes les femmes et les filles. Je rappelle aussi que dans cet objectif 5, que j'avais analysé il y a quelques années, il y avait déjà la notion d'une égalité quant au système de reproduction, c'est-à-dire que les hommes et les femmes doivent se reproduire de la même façon. C'est ce qui est préconisé par l'agenda 2030. Alors maintenant, on en vient. Non, mais je ne rigole pas. C'était vraiment ce qui était écrit. D'avoir accès de la même façon à la reproduction. Ok, passons. Donc l'agenda qui est prévu pour faire passer ce traité. Prochaine session de l'INB. Donc ce sera la 13e rencontre de l'INB qui est prévue du 2 au 6 décembre de cette année. Et puis ils ont prévu d'adopter le traité en mai 2025 sans donner pour autant les dates. J'ai cherché les dates de la 78e, je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai bien mis examen des résultats du rapport et vote final du traité pandémie ou pas. Donc ce que j'espère vraiment, c'est que cette fois le traité pandémie ne passe pas. Et quelques petites annexes à mon exposé par rapport aux lois qui sont en train de s'instaurer dans les différents pays en parallèle de ces traités qui se négocient et que se signent dans les salons feutrés de l'OMS. Les lois nationales sont en train de changer. En Suisse, en France, on le voit, dans l'Union européenne, on le voit. Les pays mondialistes européens accompagnent l'OMS dans ses projets de surveillance et de mesures dites sanitaires. Par exemple, la France, avec ce décret que j'ai déjà décrit, qui date de mars 2020 et qui a déjà été signé à Paris en 2019, en décembre 2019 et à Genève, le 31 décembre 2019 également, qui réaffirme l'OMS comme entité directrice et coordinatrice, comme on l'a vu avant. Là, j'ai illustré avec les photos du bâtiment, en fait, dans ce décret français, on parle de s'appuyer sur Gavi, sur Unitaid et sur le Global Fund, qui sont trois entités qui logent dans le même bâtiment qui est juste à côté de chez moi, à Genève. C'est pour ça que vous voyez Global Fund, Gavi et Unitaid. Unitaid, je vous rappelle que c'est Marisol Touraine, la directrice, et que Jérôme Salomon, il travaille maintenant comme l'un des cadres, enfin, il est dans le conseil d'administration. Il est également à l'OMS, numéro 2 de l'OMS, je me rappelle, notre Jérôme Salomon, qui était directeur de la santé publique au moment du Covid. Et que donc, il faudra s'appuyer sur l'agenda 2030 et sur Global Fund, Gavi et Unitaid. Je ne sais pas si les Français le savent, ceux qui ne font pas de recherche et ceux qui ne suivent pas les lanceurs d'alerte ou les informateurs indépendants. Dans l'Union européenne, depuis 2022, on nous parle de mettre en place le pass mondial. Donc ça, c'était le règlement de novembre 2022, il y a 2 ans, par rapport aux menaces transfrontières. Donc il s'agit de bloquer les frontières. Donc c'est vraiment dans les bacs, hein, cette histoire de faire des contrôles aux frontières, bloquer les frontières en cas de problème de pandémie. On nous parle du certificat numérique, donc qui permet d'établir un système mondial pour faciliter. Ils appellent ça faciliter. Moi, j'appelle ça entraver, bloquer, empêcher, mais eux, ils appellent ça faciliter la mobilité mondiale. C'est la fameuse liberté sous condition avec ce fameux pass pour surveiller les maladies, surveillance épidémiologique, les maladies transmissibles. Et le champ d'application a été étendu pour renforcer et assurer une approche plus coordonnée de la sécurité sanitaire. Donc, on donne plus d'application à la surveillance sanitaire et à l'Union européenne qui décide pour nous de mettre en place différents passes, différents certificats. Donc, on voit que l'Union européenne travaille avec l'EMA. Donc, l'EMA, c'est l'Agence européenne du médicament. Et l'OMS, en tout cas, c'est ce qu'elle dit dans son règlement. Et qu'elle s'attache aussi aux zoonoses. Donc, on a toujours le lien avec les animaux, hein, avec les maladies qui viennent des animaux. Qu'il convient de renforcer les capacités de recherche des contacts, toujours tracer, en créant des systèmes automatisés. Donc, le numérique au service de la santé, hein, c'est bien connu. les robots sont mieux à même que nous-mêmes de s'occuper de nos corps et de nos âmes, en utilisant toujours les technologies modernes. Alors, quand on dit technologie moderne, on parle par exemple du pass mondial dont on a parlé, qui est en place depuis le 5 juin 2023 et qui est en période de test, comme tu l'as rappelé, Jean-Jacques, qui, selon l'OMS, est le premier élément. On nous parle bien du premier élément, donc il y en aura d'autres, sous-entendu, il y en aura d'autres. Premier élément constitutif du réseau mondial de certification de la santé numérique de l'OMS, qui développera une large gamme de produits numériques pour offrir une meilleure santé pour tous, on se réjouit, qui peuvent inclure la numérisation du certificat international de vaccination. Alors ça, on avait bien compris. D'ailleurs, on le voit aussi en Suisse, mais là, je vous fais une petite intermède suisse parce que je vous l'ai mis dans l'ordre chronologique. Là, on était en 2023. Là, on passe en 2024. C'est une vidéo que j'avais faite au début de l'année sur la mutation de la loi sur les épidémies, qui nous dit que la Suisse va se conformer au RSI et au traité sur les pandémies, et que, par exemple, le RSI, elle nous rappelle que le RSI s'applique à tous les événements susceptibles de constituer la fameuse fake, l'urgence de santé publique de portée internationale, qui implique des agents biologiques, chimiques, des rayons ionisants, qu'ils soient d'origine naturelle ou involontaire, et aussi, par exemple, des accidents de laboratoire. Au hasard. On nous dit donc que l'antenne de l'OMS, ça sera l'OFSP, la fameuse OFSP dont j'avais parlé un petit peu aussi avec la Task Force, avec tous ces conflits d'intérêts, Office fédéral de santé publique en Suisse, et que j'imagine qu'en France, qu'est-ce que c'est en France ? C'est pas la NSN, mais ça doit être, vous me direz. Salim saurait me répondre là, s'il était là. D'ailleurs, Salim, je ne sais pas ce qu'il fait. Il est toujours bloqué à l'extérieur, je pense. Donc, l'OFSP qui coordonnera les mesures, bien sûr, comme il l'a si bien fait pendant le Covid, et qui mettra en place des mesures de surveillance et de surveillance en particulier aux frontières. Donc, on revient sur les frontières. Donc là, on nous parle de la Suisse qui va s'adapter aussi au traité pandémie grâce à sa nouvelle loi sur les épidémies. Et ensuite, on repasse sur la carte, la CVE, que tu avais détaillée, Jean-Jacques, la carte européenne de vaccination qui est en test depuis septembre, depuis 2 mois, dans les fameux 5 pays, Belgique, Allemagne, Grèce, Lettonie, Portugal, et qui a prévu de déployer ses effets, ce test, pendant 2 ans, jusqu'à juin 2026, presque 2 ans, qui est piloté par Eva Beko, donc c'est qui travaille avec la Commission européenne, pour contrôler et augmenter la vaccination, c'est ça l'objectif. Et elle nous dit aussi que la CVE, donc la carte européenne de vaccination, va de pair avec l'introduction de l'identité numérique européenne qui arrive à grands pas, et de la CBDC, la MNBC en français, la monnaie numérique des banques centrales. On parle de monnaie numérique en Europe, donc tous ces petits systèmes technologiques sont liés, on ne nous le cache pas. Et puis alors la dernière invention, la dernière découverte, trouvaille de l'UE, c'est ce IT Wallet, donc ces portefeuilles numériques, qui a démarré le 23 octobre, il y a 1 mois, en Italie, l'un des pays pilotes, qui permet dans la même application, sur votre téléphone portable, votre cher téléphone portable, d'y mettre le permis de conduire, de pouvoir accéder aux services publics numériques, donc de s'identifier avec une fameuse, donc c'est en fait une identité numérique, de s'identifier dans les services publics numériques, d'ouvrir un compte bancaire, de payer et d'avoir l'autorisation de payer donc via votre e-banking sur votre téléphone, d'avoir vos diplômes, de les stocker, de pouvoir les partager lors d'une une embauche, enfin une candidature, de récupérer facilement vos médicaments prescrits dans une pharmacie, d'accéder aux prestations de la sécurité sociale, de pouvoir voyager en toute tranquillité, de prouver votre identité grâce à votre petit wallet, votre petite identité numérique pour réserver par exemple vos hôtels sur booking.com ou vos transports, d'enregistrer une carte SIM prépayée, vous savez les cartes SIM qui normalement sont anonymes ou presque, qu'on peut encore acheter dans des pays, ben non, grâce à votre identité numérique de l'UE, vous pourrez ne plus être anonyme face à vos cartes SIM, de signer des contrats et prouver votre identité quand vous représentez par exemple une organisation lors de vos voyages ou lors d'une conférence. Voilà à quoi on nous amène grâce à la technologie moderne. Tout ça, c'est pour notre santé, rappelez-vous. Donc, je fais un petit bilan, une petite conclusion en vous mettant sur la table les différents objectifs, les différents les différentes solutions proposées par toutes ces entités mondialistes. On a le RSI, le traité pandémie, les agents de santé, les objectifs du développement durable, alias à l'agenda 2030, et le net zero pour 2050. Eh bien, moi, je propose de faire comme Trump, mais cette fois avec la vie, c'est-à-dire make life great again, sans tous ces trucs. Désolée, Christophe, parce que je reste concentrée sur ce qui ne va pas plutôt que de regarder ailleurs.
Mais Chloé, c'est pour notre bien. Voilà. Tout seul. C'est pour notre protection.
Mais oui, je sais bien. Mais j'arrive pas à m'y faire. J'arrive pas
à. Je trouve bien négatif.
Ouais, je sais. Ben, voilà bravo. Ce qui nous attend. Mais
bravo. Bravo, ouais. Quelle belle présentation. Ça, c'est côté positif. T'es très bonne pour faire des présentations. On voit que t'es un prof dans l'âme.
Ouais, ils m'ont privé de mon métier. Je continuerai à l'exercer.
Voilà, à grande échelle maintenant. Christophe, tu voulais rebondir sur ce que Chloé disait, mais ça faisait un moment que tu voulais rebondir. Désolé, il faut que tu montes.